Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
L'union de trois ensembles très prestigieux, comme l'ensemble Clément Jeannequin, qui est spécialiste des musiques de la Renaissance, le Café Zimmermann, qui a fait beaucoup de cantates de Bach, et les Sacboutiers de Toulouse, qui sont ancrés dans Toulouse pour toute la musique de la Renaissance. Ben, je trouve que la réunion des trois autour d'un programme de compositeurs pas très connus en dehors de Schütz a laissé une grande impression profonde de joie et de Noël, à préparer Noël avec beaucoup de magnificence. Voilà ce que je peux dire, même si les compositeurs n'étaient pas très connus. Ce sont des belles œuvres et la réunion des trois ensembles était très merveilleuse.
Il est des concerts d'où l'on sort heureux, touché, ému, plein de sentiments de gratitude et d'espérance mêlés. Il est des concerts où, bien après que les lumières se sont rallumées, le public, certain d'avoir partagé un moment d'humanité, s'attarde encore en échangeant des propos passionnés. Le concert que ces trois ensembles réunis, le Café Zimmermann, les Sacboutiers et l'ensemble Clément Jeannequin, donné le 14 décembre dernier à Toulouse en la basilique Notre-Dame de la Dorade, dans le cadre de la saison des arts renaissants, est de cela. Mais remontons un peu le temps, J-1. Dans les coulisses de l'église du Jésus, les trois ensembles répètent ce concert de Noël, Magnificat. Un concert empreint d'une émotion particulière, autre, différente. Dominique Wyss, chef de l'ensemble, Clément Jeannequin.
Il y a un lien qui se tisse tout de suite avec le public. Moi, je commencerai par parler du public. C'est que le concert de Noël a une connotation un peu particulière. Les gens, c'est déjà la fête de Noël, c'est déjà la dinde, c'est déjà... Donc, je trouve que ça associe le répertoire. C'est comme la tradition des cantates de Bach et la tradition autour de la résurrection du Christ. C'est pareil, il y a quelque chose de particulier qui se passe, évidemment, autour de la religion, mais pas seulement. Pour les gens, c'est déjà la fête, et donc ce concert-là est un avant de la fête et de toutes les festivités qui vont être autour de Noël. Et le répertoire, évidemment, est très particulier. Il est particulièrement joyeux, Magnificat, c'est une pièce magnifique. Et beaucoup de pièces...
Intériorisé aussi, peut-être
Magnificat, c'est... Oui. Pas très intériorisé, plutôt. Enfin, pour moi, la musique, et notamment, si je dois parler du XVIe siècle, c'est exactement le contraire. C'est totalement extériorisé. Il y a même une forme de paganisme qui existe dans le répertoire. Et il y avait une tolérance au XVIe siècle, notamment, où il y a eu des abus, d'ailleurs, des écrits comme à Rouen, où on a des écrits comme quoi les prêtres, là, ils allaient un petit peu trop loin. Il y avait une espèce, comme dans beaucoup de cultures, et un jour dans l'année où on a le droit de faire n'importe quoi, de boire n'importe quoi, ou même certaines cultures, on a le droit de prendre la femme des autres. Mais c'est comme ça. Ce jour-là, tout est permis. Et à Noël, à l'époque, au XVIe siècle, et même fin XVe, c'était comme ça déjà. Et autour de ça, il y a un répertoire musical qui est extrêmement extraverti, extrêmement joyeux, et qui est très proche de la musique païenne. Et c'est l'époque où c'est extrêmement joyeux, et que la musique s'ouvre justement à tout le monde.
Ces deux Magnificat sont deux œuvres qui se répondent, qui dialoguent. C'est les deux choses, c'est dans un moment-là.
Oui, ce Magnificat, ce sont les paroles de la Vierge qui était enceinte de Jésus, voilà, quand elle a rencontré Élisabeth, qui était aussi enceinte de Jean-Baptiste. Voilà, donc c'est une pièce très joyeuse. C'est l'émerveillement devant le fait d'attendre un enfant. Donc évidemment, c'est parfaitement raccord avec la période de Noël. Et aussi le motet de Schütz qu'on va faire aussi, qui parle de l'Avent, qui est sur le deuxième dimanche de l'Avent, si je ne me trompe pas. Et on a eu à cœur d'associer les Magnificat, qui sont très joyeux, très, très directs. Les mélodies aussi sont très simples et parlent directement aux oreilles des gens, avec des pièces qui sont un petit peu plus profondes, un peu plus travaillées du point de vue harmonique, aussi un peu plus chromatiques. Et tout ça, ça va donner un panel très riche de... Parce que toutes ces musiques-là, qui sont allemandes, sont quand même directement inspirées de la musique italienne. Schultz a travaillé avec Gabrielli. Voilà, il y a vraiment une grande prégnance du répertoire italien, très chatoyant, très direct, mais aussi très riche en harmonie. Et puis le fait que ce soit des pièces polychorales, quoi, 3 chœurs, 4 chœurs, 5 chœurs. Donc c'est un réjouissement pour les oreilles et pour le cœur.
Première mesure du Magnificat de Schultz, dit Tupsala, une captation réalisée en septembre dernier lors d'un concert donné uniquement par les Sacboutiers et par l'ensemble Clément Jeannequin. Si les trois ensembles, qui se connaissent depuis des décennies, ont l'habitude de jouer en duo, c'est la première fois qu'ils étaient réunis sur une même et seule affiche. Leurs trois noms réunis ce soir-là, l'histoire d'une construction musicale, humaine. Dominique Wyss, Jean-Pierre Canillac, Pablo Valetti. Nous sommes toujours en l'église du Jésus, quelques minutes avant la répétition.
Effectivement, l'amitié nous lie depuis de nombreuses années, la musique nous lie depuis de nombreuses années, et là, ce répertoire-là, qui est polychoral, évidemment, est idéal pour associer ces vieux briscards de la musique ancienne.
Bon, on peut dire que nous sommes des vétérans au sommet de notre carrière. Non, c'est vrai que, bon, Pablo et Dominique, on se connaît depuis très 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 longtemps, puisqu'on était quand même... À l'origine de la. Quand le renouveau de la musique ancienne est né en Europe. D'ailleurs, Pablo, qui vient d'Argentine, est venu en Europe pour ça. Donc, forcément, on s'est connus à ce moment-là. Et bien sûr, on a pu confronter nos talents, si je peux dire, dans divers domaines. Nous, donc, les Sacboutiers, c'est les cuivres anciens. Pablo, c'est les cordes. Et Dominique, avec l'ensemble Jeannequin, c'est les voix. Voilà. Donc ce programme, il est quand même original, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrive à être en trouple, comme on dit aujourd'hui.
Non, mais c'est aussi que chacun d'entre nous trois, et c'est le cas de tous les musiciens de chaque ensemble, et on a chacun de son côté, à côté de l'ensemble, une carrière comme soliste, comme musicien de... Qui s'associe avec d'autres ensembles. Nous, on a joué dans d'autres combinaisons qui ne concernaient pas les ensembles. Jean-Pierre et moi, on a beaucoup joué avec Jordi Savall. Et avec Dominique, on s'est rencontré plusieurs fois sous la direction de René Jacobs, chacun en soliste invité dans d'autres productions. Donc, on a eu cette idée à la place que. Il y a un ensemble qui réunit des musiciens séparés pour constituer sa propre orchestre ou son propre chœur. Là, puisqu'on se connaît tellement, moi, j'ai personnellement une grande admiration pour ce qu'ils font, les autres deux. Ce n'est pas réciproque, mais ce n'est pas grave. Et donc, on a eu cette idée que les ensembles constitués entre des gens qui s'entendent bien. Et c'était une autre façon d'aborder ce répertoire que ce soit un ensemble qui appelle les musiciens séparément. Et c'est un plaisir de se retrouver comme ça, chacun responsable de son ensemble d'une part. Et on s'entend tous bien aussi parce qu'on se connaît dans plein de combinaisons différentes, les musiciens d'un ensemble qui ne sont pas nécessairement les chefs avec les autres enfants. Il y a tous les, on a passé beaucoup d'années à jouer ensemble, il y a eu beaucoup de transversalité.
Juste avant de retrouver nos trois compères qui nous rappellent l'aventure de la redécouverte de la musique baroque, Quelques mesures de la suite numéro 2 en si mineur de Bach, bien sûr, BWV 1067, labouré.
La musique de la Renaissance, c'est peut-être une redécouverte un petit peu plus tardive, Dominique Vist.
Oui, enfin, elle est presque contemporaine. Ouais. Il y a eu une première période, d'ailleurs, il faut commencer par la musique du Moyen-Âge. Dans les années 60-70, ça a d'abord enclenché avec la musique médiévale. Et la musique baroque et Renaissance ont fonctionné à peu près au même sens. Mon ensemble est né en 1978, ça aboutit un peu avant. Les Arts Florissants, c'est 79, tout ça, c'est la même époque.
Mm-hmm.
Et le répertoire est transparent. On faisait aussi de la musique de la Renaissance aux Arts Florissants. On faisait aussi de la musique baroque avec mon ensemble. Après, on a tous, dans les différents groupes, on a dû spécifier un répertoire, simplement pour le marché, puis aussi par intérêt du travail, parce qu'au début, c'est pas ce répertoire-là, c'est plutôt lui qui nous a happé que le contraire. En fait, enfin là, je parle pour moi, mais je parle pour mes deux amis, c'est que c'est plutôt le répertoire qui nous a happé, et en fait, il n'y avait rien de déterminé, et au départ, on n'avait pas vraiment, franchement, beaucoup d'avenir. On faisait ça uniquement par plaisir. Et se trouve que la période était propice à ça et que ça a fonctionné. Donc on a voyagé à côté de la musique ancienne, mais c'est elle qui nous a plutôt pris par la main que le contraire.
Oui, la recherche sur la musique ancienne existe de fin du 19e siècle. Et il y a justement, on m'a montré il y a quelques temps, une photo de la Société de musique ancienne de Paris avec 100 sens dans la photo.
Oui, oui.
Et donc, il y a toute cette redécouverte de Rameau qui était faite à Paris. Et simplement, dans les années 60, à partir des années 60 à peu près, ça a commencé à rentrer dans les salles de concert, dans le professionnalisme. Et voilà, il y a eu tout un développement vis-à-vis du public. Mais la recherche était déjà entamée. Avant, ça n'était pas arrivé au public. Quand c'est arrivé au public, ça existait depuis un moment. Mm-hmm.
Ça existait, mais il faut dire que la différence, c'est que tu as raison, dans les années 1920, la Société pour la musique ancienne de la comtesse de Chambure, qui avait une collection extraordinaire d'instruments anciens, a souhaité donc prêter ces instruments aux gens qui s'intéressaient à ce moment-là, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire, la grosse différence dans la première période de la découverte de la musique ancienne, c'est que les gens ne souhaitaient pas apprendre ces instruments, alors qu'à partir de 60, à partir des années 60 et 70, c'est ça la grande différence, c'est que les musiciens dits modernes, qui jouaient des instruments modernes, se sont passionnés pour la pratique des instruments anciens. C'est à partir de ce moment-là, il y a un grand trou, si vous voulez, dans cette recherche de musique ancienne entre les années du début 1900 avec les années de 1960. Les cordes en moyaux pour les violons, c'est début 60, c'est avec Arnoncourt, disons, et encore, c'était vraiment difficile. Les violonistes ont été les plus tardifs, je pense, à se mettre aux instruments anciens. Ça a commencé avec la flûte à bec, qui était déjà un instrument un peu ancien, disons. Et après, bon, ça a rayonné, mais ça a été difficile, quoi. C'était une période très difficile qu'on a essuyé les plâtres, on peut dire. On n'est pas des pionniers, mais je veux dire, on s'est intéressé à ces... Et puis, on s'est confronté aussi, à ce moment-là, à ce que les musiciens accomplis, les musiciens modernes qui avaient une grande carrière dans la musique classique, on peut dire, étaient très réticents à la musique ancienne. Moi, par exemple, en tant que, je suis trompettiste à la base, je suis un élève de Maurice André, et quand j'étais à la classe avec Maurice André à Paris, tout le monde se foutait de moi parce que j'essayais de faire du cornet à bouquin, un instrument qui était absolument inconnu. Et il n'y a que Maurice André qui m'avait dit « C'est bien ce que tu fais parce que tout le monde essaye de faire comme moi, c'est-à-dire de la musique baroque sur instrument moderne, hein, c'est ça le truc. » Et moi, bon, j'avais la passion de la recherche de ces instruments. Et du coup, il m'a aidé finalement avec ça, Mais j'étais le seul.
C'est rare. Oui.
C'est rare. Et j'étais considéré comme mauvais. Ceux qui se mettaient aux instruments anciens, c'était des mauvais instrumentistes modernes. En fait, c'était ça. C'était considéré comme ça. Et c'est, pour les chanteurs, ça a été pareil. Pour les violonistes, c'est pareil. Et bon, après, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'était pas très bon parce qu'il fallait apprendre à jouer de cet instrument. Ça a pris beaucoup de temps. Et bon, après, on a fait école. Et maintenant, il y a des merveilleux musiciens qui jouent sur instruments anciens. Évidemment. Ouais. Mais bon, à cette époque-là, c'était pas si facile que ça.
Amanti Sepramate, un extrait du nouvel album des Sac Boutier, La Lyre Amoureuse, à la voix de Dominique Viss.
Tout un cheminement, alors ?
Pour nous, le cheminement, il est immuable puisque nous sommes. Parce qu'évidemment, ils jouent sur des instruments anciens, toutes ces techniques ont été redécouvertes. Nous, on ne chante pas sur des instruments anciens, chanté sur des instruments modernes. Donc l'acclimatation est un peu différente. Et aussi, il faut bien spécifier par rapport au répertoire, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Renaissance et tout ça. Moi, je chantais à Maîtrise de Notre-Dame, je chantais à Saint-Eustache, voilà, j'ai toujours été proche de l'église, parce que je voulais être prêtre quand j'étais petit. Et donc le répertoire a toujours été là dans les livres. Dans les livres, et comme Pablo l'a dit, au XIXe siècle, il y a eu un grand effort de fait pour l'édition de la musique de la Renaissance. Donc ce répertoire sacré, Josquin, etc., Palestrina, a toujours nourri l'église et nourri les chorales. Et après, il y a une transmission. Et donc la découverte et la cassure technique n'a pas été si grande que ça. Enfin, je dis par rapport aux instruments. Nous, c'est juste une petite remise en question. Moi, ça a été, en fait, mon groupe, je l'ai créé uniquement pas par réaction, mais par curiosité par rapport à... Je chantais dans une chorale en Normandie, et on a chanté un jour les Cris de Paris de Clément Jeannequin avec 100 personnes. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et en fait, voilà, j'ai regardé les clés, je me suis un peu renseigné, avant de faire des études de musicologie. J'ai vu que c'était fait pour être fait chez soi, un par partie, et s'amuser avec ça, que le concert n'existait pas à l'époque. Donc, moi, je suis parti, j'ai créé le groupe uniquement par curiosité. Mais il y a un long fleuve de transmission depuis la nuit des temps par la musique chorale et surtout par l'église.
Et votre interprétation aussi, elle est beaucoup plus théâtralisée.
Oui, parce que ça rejoint la question que j'ai posée tout de suite, c'est que ce répertoire-là, surtout au début 16e, après là, ce qu'on va faire dans le programme qui est polychoral, là, c'est du théâtre. Hein. L'église, c'est quand même une grande part de théâtre aussi, sans critiquer. Hein. Mais alors que la musique avant, c'était vraiment fait pour être entre soi, notamment la chanson. Donc ces chansons-là, on s'amuse avec les gens qui chantent avec vous. Ce sont des gens qui connaissent la musique, qui sont tous compositeurs en général, et qui ont tous une charge à l'église. Donc ça s'arrête là. Donc pour nous, le problème, c'est que d'un seul coup, on ouvre le cercle de ce plaisir interne et on doit, et on doit le faire partager au public. Donc à mon goût, ça, on n'est pas d'accord avec tous les autres ensembles, à mon goût, il faut le théâtraliser et casser, tordre le cou à l'histoire et à la musicologie pour le faire partager au public.
Continuer à le faire vivre, ça ne reste pas dans un musée. Quoi.
Il y a un temps pour la recherche, pour la musicologie, et après on se pose la question de savoir, par rapport au lieu, par rapport aux assemblages, même les distributions, est-ce qu'il faut essayer d'être tout le temps parfaitement respectueux de la distribution, même sans parler des tessitures, parce que voilà, il y a beaucoup de questions. Et moi, je pense qu'il faut s'approprier, il y a un moment, il faut s'approprier la musique, on fait la recherche, là on est trois personnes qui travaillons beaucoup là-dessus. Et après, on fait de la musique et on casse on casse la baraque.
Non, mais c'est parti aussi. Quand on recherche un peu, une des choses qu'on voit, c'est qu'ils n'étaient pas du tout, les compositeurs, les musiciens, n'étaient pas coincés par des règles qu'aujourd'hui, on n'ose pas mettre en doute. Et s'il fallait changer quelque chose, ou s'adapter, soit un lieu, soit aux musiciens qu'il y avait, aux instruments qu'ils avaient, ils les faisaient, ils s'adaptaient. Ils étaient très, très flexibles. Comme c'était les mêmes compositeurs, ils ne savaient pas aller demander à Rosenmüller ou à Bach qu'est-ce qu'ils pensaient. Ils étaient là. Et donc, ils changeaient. Et c'était des gens pratique, parce que c'était des musiciens, c'était pas des musiciens théoriques qui écrivaient dans son bureau, et selon une théorie qu'ils avaient créée. Ils écrivaient de la musique, ils la jouaient aussi pour des gens. Donc il fallait que ça marche. Donc voilà, il y avait un savoir-faire, que c'est ce qu'on essaie d'apprendre, les savoir-faire, mais parfois c'est vrai qu'on est un peu rigide. On prend ça comme des règles, pas comme des moyens, des ressources, n'importe quelle situation.
Vous parlez de transmission, et je crois que vous avez... On le comprend, on le sent, vous avez des valeurs communes, ces valeurs, c'est cette quête de la recherche de la musique ancienne, de la musique de la Renaissance, de la musique du baroque, ce désir de la faire connaître, de la transmettre. Vous avez parlé des élèves en conservatoire, mais vous êtes également, vous allez auprès parfois de publics empêchés ou tout simplement de publics dans des écoles avec des enfants, des jeunes, pour qui la musique, ou ce qu'on appelle la musique classique, alors entre guillemets, est totalement éloignés de leur univers. Là aussi, il y a ce désir de transmettre et d'ouvrir. Il me semble que ce sont des valeurs communes que vous partagez.
Je crois, je parle un peu pour les trois, mais je ne suis pas exactement au courant de l'activité de chaque groupe. Mais dans les cafés de Zimmermann, je crois que c'est pareil pour tous. Et c'est une partie importante de notre activité. Oui. Soit les gens, soit aller chez les gens empêchés, qui sont dans des hôpitaux, dans des prisons, et qui n'ont tout simplement pas accès. C'est bête parce qu'ils pensent pas comprendre ou pas avoir accès d'une certaine façon. Et quand ils s'entendent, ils sont super contents. Et les gens, et l'accès en fait est très immédiat, très simple. Mais il y a toute une croyance que la musique classique, c'est musique pour des élites. Et souvent, des gens qui n'ont aucune... qui font partie d'aucune élite, ou de l'élite de la prison, et vont avoir un accès, comme les enfants, qui ont un accès très immédiat, très simple, très émouvant, sont très émus. Et donc il y a une partie ça, il y a d'autre part la question de la transmission, d'aller vers le public qui ont l'accès, l'ont dans la pratique, ça veut dire qu'ils pourraient aller dans les salles de concert, mais qui n'osent pas. Et ça arrive tout le temps quand on va beaucoup jouer dans des écoles où on fait venir parfois les étudiants à nos répétitions avec des explications. Enfin, on fait beaucoup ça, je crois, tous les trois. Et on voit qu'il y a cette pensée comme quoi ce n'est pas pour eux et que ça vient de leurs parents, parce que ça, ce n'est pas un gamin de 8 ans qui va penser que la musique est pour lui ou pas. Il y a des gens qui pensent qu'aller dans une salle de concert a quelque chose qui n'est pas pour eux. Et une partie, c'est qu'effectivement, un billet à la Bastille, effectivement, c'est très cher. Mais il y a beaucoup de concerts qui sont gratuits ou avec des prix normaux, très accessibles. Et de très bons concerts. Mais voilà, beaucoup de gens pensent qu'ils ne vont pas comprendre, qu'il y a quelque savoir spécial à avoir. Et non, toute cette musique qu'on fait, pas toute, il y a une partie de la musique qu'on fait qui était faite par des savants pour des savants. Il y a une partie comme ça, c'est vrai, mais c'est un pourcentage minimum. La plupart de la musique qu'on fait, c'était écrite pour des gens qui ne savaient rien de musique. C'était écrit...
Oui, c'est pour transmettre l'émotion.
Pour transmettre l'émotion, même dans les cadres de l'Église, pour convertir les gens, pour transmettre l'idée de la religion. Et pour...
Oui, la beauté, la pureté. La beauté,
la spiritualité. Il y a toutes ces valeurs. C'était des choses qu'on mettait dans la musique pour des gens, justement, qui n'étaient pas, qui n'avaient pas accès à une éducation dans un monastère, par exemple. Et donc, et au contraire, tout ce qui est surtout la musique baroque et antérieure, c'est la plupart de ces musiques est fait pour tout le monde, vraiment, pour tout le monde.
Nous, ce qui nous arrive souvent, c'est que soit dans les animations scolaires, soit dans les présentations de concerts, on nous dit que finalement, qu'ils découvrent cette musique ancienne, même pas classique, hein, c'est un microcosme de la musique classique, la musique ancienne. Et les gens qui connaissent absolument rien de ça sont étonnés de la promiscuité qu'ils ont avec cette musique-là. Ils se doutent pas du tout que c'était ça, la musique ancienne, en fait. Et c'est très accessible. Il n'y a pas très longtemps, on nous a fait un compliment, que je trouve un très beau compliment. Il nous a dit, quelqu'un nous a dit, c'est bien ce que vous faites, vous élevez la musique populaire. Je trouve ça, c'est exactement ça. C'est la musique populaire pour tous, mais évidemment avec une émotion, une grande émotion. Voilà.
Et à la sortie de la dorade.
C'était génial, c'était super sympa. Ouais. C'était vraiment très intéressant. Après, je ne connais pas trop la musique classique. C'était vraiment sympa. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé les voix, l'harmonie des voix, et c'était très très bien joué. Quoi.
Et tout est dit. Prochain concert des Arts Renaissants le mardi 18 janvier en l'église Saint-Jérôme à Toulouse avec le Banquet Céleste. Musique baroque, toujours.